suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Les relations entre histoire et littérature sont anciennes, faites d'attraction et de concurrence. Ces dernières années, de nombreux rapprochements se sont opérés, aussi divers que fructueux ou parfois hasardeux. C'est un rapprochement d'un autre type que propose Judith Lioncamp avec La griffe du temps. Dans cet essai brillant, elle expose et réfléchit une expérience de lecture historienne d'une nouvelle particulière de Jules Barbey-Doréville. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. La griffe du temps, c'est le titre de cet essai qui paraît aux éditions Gallimard dans la collection NRF Essai. Un livre dans lequel la ville de Paris est présente, très présente. On y trouve une sorte d'archéologie littéraire de Paris en particulier. Et de Paris, il sera question assurément dans la deuxième partie de l'émission, puisque nous rejoindra pour cette seconde partie Aurélien Bélanger, écrivain à qui l'on doit un roman, le dernier en date, Le Grand Paris, et qui... dans son travail d'écrivain, réfléchit nécessairement aux relations à une histoire finalement relativement proche du XXe siècle. C'est plutôt du XIXe dont on va parler, Judith Lioncamp, avec vous, à propos de la griffe du temps. J'aimerais que vous nous disiez finalement comment s'est engagée cette expérience singulière de lecture. Vous êtes historienne, vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous avez été amenée à éditer des textes de Barbey-Doréville, éditer au sens de les présenter pour une édition nouvelle, pour une maison d'édition. Et c'est à la faveur de ce travail, qui est un travail un peu différent de celui qu'on fait d'habitude quand on est historienne, j'imagine, que vous êtes tombée sur un bouger, dites-vous, quelque chose qui a changé entre la phase manuscrit de la nouvelle dont vous vous êtes emparé et puis sa phase publiée. Et c'est ce décalage, ce jeu entre ces deux versions qui vous a mis la puce à l'oreille, en quelque sorte.
Oui, j'ai été amenée à préparer une édition des romans de Jules Barbey-Doréville pour la collection Quarto chez Gallimard en 2013. Et donc, quand on fait ce genre de travail, on fait un travail philologique. On cherche justement, pour certains textes de Barbey, on dispose à la fois de la version éditée et de manuscrits, pas pour tous. Mais on fait ce travail philologique qui consiste à faire des notes bas de page. Bon. Et faisant ce travail... j'étais très surprise par le type de variante qui pouvait exister, notamment dans La dernière diabolique, donc qui est un texte publié pour la première fois en 1874 et qui fait scandale. Enfin, le volume des diaboliques fait scandale.
Qui va être interdit.
Il est retiré de la vente pour éviter le procès. Il n'est pas interdit, oui. En fait. Il est retiré de la vente pour éviter le procès pour outrage à la morale publique.
On pourra y avoir accès que...
En 1882, après la grande loi républicaine qui va sur la liberté d'expression
1881, oui.
De 81, oui, après la loi de 81 qui va restreindre le domaine de l'outrage à la morale publique à une pornographie bien plus caractérisée. En tout cas, en 1874, il y a ce texte qui est publié et Barbey a fait des corrections d'auteur entre le manuscrit et la version imprimée. Donc je travaille là-dessus. Et les bougers du texte me posent des questions qui en fait sont des questions d'histoire, qui sont pas des questions qui sont aussi des questions littéraires. Je me pose des questions littéraires, mais je me rends compte qu'en se posant ces questions, c'est-à-dire quel contexte pourrait expliquer le fait que par exemple Barbey a changé la manière dont un personnage est habillé entre la version manuscrite et la version imprimée. Quel contexte ça ouvre? Alors, il n'y a pas de réponse puisque ça n'est pas documentable par une archive, mais les questions qu'ouvrent la variante sont des questions d'histoire, des questions qui peuvent relever de l'histoire de la morale publique, justement, du rapport à l'obscénité, du rapport à l'érotisme, à la licence, des questions aussi qui peuvent être renvoyées à l'évolution littéraire propre de Barbey, qui peut avoir, par exemple, choisi d'effacer des détails qui, dans son écriture, fait trop naturaliste, alors que c'était un grand ennemi des naturalistes. Donc, il n'avait pas du tout l'écriture criarde. Donc, je commence à me poser des questions sur ces bougers, et sur un bouger en particulier dont on pourra parler. Et à partir de là, l'envie me vient de faire une expérience qu'on ne fait pas en histoire en principe, qui, au lieu de réfléchir de manière surplombante, en fait, sur les rapports entre ma discipline, l'histoire, et la littérature, comme en dialogue possible avec cette discipline, sur les questions d'écriture, l'expérience serait de lire et de montrer comment une historienne lit un texte littéraire du passé.
Faire ce que vous appelez une herméneutique littéraire.
Historienne.
Historienne, pardon, de sur un texte littéraire. On y reviendra. Mais, alors, chose rare, au fond, dans votre livre, après une introduction, vous avez choisi de faire figurer l'objet, c'est-à-dire l'objet littéraire, c'est-à-dire cette nouvelle que vous avez lu extraordinairement attentivement, de façon à ce que le lecteur de votre livre puisse avoir connaissance du texte dans son intégralité.
Oui, alors d'abord, je voulais pas que ce soit un livre pour les spécialistes de Jules Barbey d'Aurevilly, parce que ça n'est pas du tout l'objet du livre, qui était une expérience sur la littérature du 19e siècle en général. Ensuite, c'est un livre qui donne à la lecture une part importante, et donc s'il s'agissait d'expérience de lecture et de ne pas se situer dans une position surplombante, il fallait que je puisse partager avec le lecteur du livre l'expérience qui consistait à entrer dans ce texte et à voir ce qui se passe. Donc j'ai proposé à l'éditeur un dispositif qui est un dispositif, en effet, où la presque première expérience du lecteur consiste d'abord à entrer dans ce texte qui, par ailleurs, a une structure de seuil, le texte lui-même, puisqu'il s'agit d'entrer dans un appartement et de voir ce qui s'y passe.
Alors, on passe à travers ce texte, ou on passe enfin à travers cette nouvelle qui est présentée dans une typographie différente, mais ça fait partie de l'expérience de lecture de votre essai. Alors, on ne va pas pouvoir réitérer l'expérience ici et demander à un comédien ou une comédienne de lire la nouvelle, vous demandez si ça prendrait trop de temps. Donc, néanmoins, est-ce que vous pouvez... Peut-être faut-il commencer par là, nous donner quelques éléments sur ce texte de Barbey d'Aurevilly, cette sixième nouvelle des Diaboliques.
Voilà, donc La vengeance d'une femme raconte une histoire très romanesque. Ça se situe à Paris sous la fin du règne de Louis-Philippe, donc à la fin des années 1840. Et c'est l'histoire de la rencontre sur le boulevard des Italiens, d'un dandy blasé, qui s'appelle Robert de Tressigny, avec une femme portant une robe jaune safran au ton d'or et qu'il reconnaît immédiatement, probablement, comme une prostituée. Il la suit dans un passage en contrebas du boulevard. Il la suit, il monte les escaliers d'une maison identifiable comme une maison de passe jusqu'à son appartement. Et là, il connaît avec elle une expérience érotique qui le laisse stupéfait, puisque tout blasé qu'il soit, il n'a jamais connu une telle intensité sensuelle avec une femme. Mais dans le moment du comble du plaisir, il se rend compte qu'elle fixe un médaillon sur lequel est une autre image d'homme. Et à ce moment-là, il y a une rupture dans la narration. Et lui, se rendant compte qu'elle ne pense pas à lui, mais probablement à quelqu'un d'autre, il lui demande des explications. Et l'explication est donc cette histoire extrêmement romanesque. Elle explique qu'elle est une duchesse espagnole, une grande d'Espagne, et qu'elle est venue à Paris pour se venger de son mari, qui a donné à manger aux chiens le cœur de l'homme qu'elle aimait platoniquement. Et pour se venger de cet affront, elle a décidé de profaner à la fois son corps de femme et le nom de l'homme de son mari. Voilà. Et en effet, donc après avoir raconté cette histoire qui évoque donc une sorte d'Espagne de légende, cruelle, tragique, brûlante de soleil, etc., le dandy s'en va et à la fin il apprend qu'elle est morte cariée jusqu'à l'os, c'est-à-dire syphilitique, à la Salpêtrière, en fille repentie. Fait-elle inscrire sur son tombeau, et le dernier mot de la nouvelle est « mais il savait, lui, qu'elle ne se repentait pas ». C'est donc en cela qu'elle est diabolique, au sens aurevilien, puisque c'est une femme qui reste vouée au péché. Voilà, alors c'est cette histoire qui m'intéressait, parce que pour un historien, elle ne donne pas beaucoup de prise. C'est très littéraire, en ce sens que c'est très romanesque, c'est plein de fiction. Cette Espagne qui est présente est une Espagne de légende. Et en même temps, il y a dans ce texte quelque chose comme une densité mémorielle, comme si Barbet, l'auteur, par-dessus l'épaule du narrateur, en racontant cette histoire, était en train de se souvenir de l'intensité des années de sa jeunesse d'écrivain à Paris en 1840, où les personnages, où la vie sociale était complètement construite par la fiction balzacienne. Et ce qui m'a intéressé très vite dans cette histoire, c'est qu'il y avait une présence du Paris des années 40 qui était comme inscrite à l'intérieur du texte, comme une empreinte, mais que cette inscription, elle était portée par un jeu d'écho avec un roman de Balzac, La fille aux yeux d'or, dont Barbet ne parle pas, mais qui est là, silencieuse, en arrière-plan de l'histoire.
Alors, ce qui est très très intéressant, c'est qu'au fond, cette nouvelle dont vous dites qu'elle est très littéraire, en même temps, elle est saturée d'histoire, de griffes du temps, pour reprendre le titre de votre livre, Judith Lioncamp, c'est-à-dire que des détails innombrables, pour un texte bref, permettent de le dater ou de dater à la fois, je dirais, la période où se déroule l'histoire telle qu'elle est racontée, mais aussi la période où s'écrit cette histoire et ce décalage entre les deux. Et d'ailleurs, c'est ça qui va attirer votre attention, ce premier bouger dont nous parlions tout à l'heure, puisqu'au fond, entre la version du manuscrit et la version publiée, ce qui se passe, c'est que dans la version manuscrit, une remarque à propos d'un objet est attribuée au narrateur, dont vous disiez qu'il était par-dessus l'épaule du personnage, et puis dans la version publiée, c'est le personnage qui prend à son compte cette remarque. Et c'est ce glissement qui va vous mettre la puce à l'oreille, comme je disais tout à l'heure.
Oui, il s'agit d'un... Dans la version manuscrite, il s'agit d'un souvenir du narrateur, donc on peut supposer de l'auteur, mais d'un souvenir qui est donné comme fictif, puisque donc cette femme déshabillée évoque pour lui une statuette qu'il aurait vue dans la vitrine d'un marchand de bronze et qui porte un nom extrêmement trivial, Madame Husson. Mais cette statuette de bronze nommée Madame Husson aurait suscité chez le narrateur un rêve obscène. Bon, aurait pu susciter un rêve obscène. Et alors dans la version imprimée, cette remarque est annexée, on peut dire, par le personnage. Donc, on n'y prête pas vraiment attention, puisque finalement, ça fait partie du paysage de la fiction. Et parce que je travaillais sur le manuscrit, je me suis demandé, au fond, moi, historienne de cette période, puisque j'ai beaucoup travaillé sur les années de la monarchie de Juillet. Qu'est-ce que c'est qu'une statuette de bronze en 1840 qui aurait pu susciter chez un passant un rêve obscène? Sachant que si elle est à la vitrine, à la montre, comme on disait à cette époque-là, d'un marchand de bronze, c'est qu'elle n'est pas scandaleuse. Donc il y a quelque chose dans cette statuette qui suscite un rêve obscène. Alors, il y a une réaction qui pourrait être de dire « Bon, la question de l'obscénité ou du rêve obscène est une question toute personnelle ». En même temps, je fais partie d'une génération ou d'une école d'historiens qui considère que les représentations, les sensibilités collectives informent profondément le rapport que tout un chacun peut avoir à l'obscénité. Et donc, j'ai commencé à enquêter, non pas sur cette Madame Husson, qui est un objet de fiction, mais sur les possibles de Madame Husson.
Qu'est-ce que c'était que
ces bronzes, ces petits bronzes qu'on voyait à la vitrine des marchands de bronze
qui se multipliaient à l'époque.
Voilà,
on était dans la reproductibilité de ces.
C'est la période de la reproductibilité de l'art industriel, hein, de la reproductibilité des œuvres d'art. C'est une période où la reproduction donc d'objets d'art de toutes sortes, dans toutes sortes de matériaux, fait fureur. Et en particulier, c'est la période où on met en place des procédés qui permettent de produire pour pas très cher, en réduction, les marbres antiques des musées. Voilà. Et donc, il y a énormément de marchands de bronze sur les boulevards, justement, qui vendent des petites statuettes des Vénus de Milo, si vous voulez. C'est le moment de la Vénus de Milo. Voilà. Donc, je me mets à enquêter sur cette Madame Husson, toute fictive qu'elle soit, devient une griffe du temps. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui renvoie à une réalité, puisque Madame Husson n'existe pas. Ça n'est pas un effet de réel, au sens de Barthes, mais c'est une marque du temps qui, explorée comme objet de fiction, ouvre des potentialités documentaires.
Alors là, on est au cœur vraiment de l'enjeu de votre travail, Judith Lioncamp. Préférez parler de griffe du temps plutôt que des faits de réel. Mmh. C'est une manière d'envisager les relations entre la littérature et l'histoire d'une autre façon. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à avoir des lectures documentaires, que tout ça existe, mais vous nous proposez avec cette expérience de considérer autrement, au fond, la présence de l'histoire dans un texte littéraire comme celui-là, qui, on le verra, c'est pas n'importe quel texte littéraire, et c'est pas un hasard si vous avez choisi celui-là non plus.
Disons que ce qui m'intéresse quand je regarde ce texte, c'est d'essayer de répondre à la question de quoi est-il la trace, ce qui est une question d'historien ou d'histoire. De quoi est-il la trace? C'est la trace d'un certain état de la littérature, donc qui est une réalité historique elle-même, quoique transtemporelle, puisqu'elle vient jusqu'à nous. C'est la trace d'un certain état de la littérature, c'est la trace d'un certain rapport à la littérature, et c'est la trace d'une expérience du monde avec la littérature qui est, dont le texte est là comme une archive. Et donc j'ai fait une sorte d'archéologie textuelle, et c'est dans cette archéologie textuelle que des détails qui, en général, quand on fait une analyse d'une explication de texte, peuvent être traités comme des effets de réel, c'est dans cette archéologie textuelle que les détails apparaissent comme des griffes du temps, c'est-à-dire des traces ou des marques indirectes d'une expérience du monde, mais qui est déposée à l'intérieur de la littérature. Mon objectif était de ne pas lâcher la littérature en effectuant ce que les historiens peuvent faire et font à l'occasion, qui serait une lecture documentaire du texte littéraire, qui consisterait à dire « bon ben voilà, j'ai des informations là sur un état du monde, des réalités, donc par exemple des statuettes, ou des représentations de ces réalités, et puis il y a toute une part qui est inassimilable à l'analyse historienne, ce que j'appelle le reste du littéraire ». C'est une expression que j'emprunte à Pierre Barbéris, un grand spécialiste de Balzac. Et d'habitude, l'historien laisse ce reste, parce que c'est la littérature elle-même. Mais pour moi qui tient que la littérature est une comme pratique de symbolisation appartient à l'histoire, m'intéresse d'interroger ce reste en historienne. Et c'est vraiment ça le cœur de l'expérience du livre.
C'est-à-dire toucher au cœur à ce qui normalement doit échapper à l'histoire, parce que ce serait du, entre guillemets, pur littéraire. Et au fond, vous n'acceptez pas cette idée qu'il y aurait au cœur de la littérature quelque chose de sacré que l'historien n'aurait pas à toucher.
Disons que la construction de ce sacré est une pratique sociale à laquelle tout un chacun participe, y compris moi-même, vous-même, lorsque nous lisons de la littérature. Mais c'est quelque chose qu'on peut regarder dans l'histoire. C'est une forme d'échappement dont on peut faire l'histoire, et faire l'histoire de cet échappement, c'est prendre en charge, et c'est pour ça qu'il y a une forte part qui est donnée dans le livre à l'expérience de lecture, qui est de prendre en charge l'expérience de la lecture pour regarder ce que c'est que cet objet textuel singulier qui est, au moment où il apparaît, qualifié de littérature, qui traverse le temps jusqu'à nous comme littéraire, mais qui nous parle bien. Et c'est là le cœur de cette nouvelle-là en particulier, de ce que la littérature avait fait à l'expérience de la modernité pour un homme des années 1870, se tournant vers les années 1840.
Là, au fond, ça permet aussi de comprendre la relation entre deux moments de la modernité différents. Ces années 1830, avec Balzac, ce roman qui n'est pas cité, mais dont vous montrez qu'à certains égards, cette nouvelle est une forme de réécriture. Et puis, la modernité contemporaine de l'auteur, Barbet d'Aurevilly, qui est celle de Baudelaire, qui est celle cette modernité, peut-être ce qu'on associe peut-être plus immédiatement nous aujourd'hui à la modernité.
Oui,
mais c'est une façon de montrer qu'il y a eu une première modernité et qui était déjà datée à l'époque.
C'est un texte d'entre-deux modernités, c'est-à-dire que c'est un texte qui parle, qui évoque avec beaucoup d'intensité la ville balsacienne, donc celle des années 1840, avec justement ses dandys, ses prostituées en robe à traîne. Et en même temps, c'est un texte qui est complètement pétri par la modernité baudelairienne, dont Barbet était proche. C'était un grand amateur de Baudelaire. Il a défendu Baudelaire au moment du procès des Fleurs du Mal en 1857. Et surtout, ils avaient une passion commune pour un peintre qui est, à mon avis, mais c'est la construction que je propose dans cette interprétation, extrêmement présent dans les images, qui est Constantin Guisse. Constantin Guis, qui est l'auteur dont parle Baudelaire dans sa théorisation de la modernité et dans ce très grand texte qui s'appelle Le peintre de la vie moderne.
C'est un peintre dont l'œuvre, au fond, informe cette nouvelle sans qu'il soit cité.
Alors c'est une série d'hypothèses. Oui. Bon, l'histoire est un savoir conjectural, donc je fais une série d'hypothèses.
Image à l'appui.
C'est vrai que d'abord il y a une pratique du jaune chez Constantin Guis qui est très très étonnante, et puis un regard sur ces femmes qui passent, ces torsions du dos, ces traînes. Et puis Guis avait été c'est un peintre reporter. Il a été en Espagne, il a été en Turquie, et il y a tout l'imaginaire qui est un peu à la fois espagnol et oriental derrière ce personnage de la duchesse d'Arcos de Sierra Leone, puisque c'est son nom, qui est à la fois espagnol et turc, m'a semblé, et là je montre les images qui vont avec, être complètement
inspiré par
Guis, dont d'ailleurs Barbet dit que, à propos d'une aquarelle de Constantin Guis qu'il avait vue chez Baudelaire, qu'il en était affolé. Voilà. Donc c'est ce jeu entre deux modernités, et c'est un livre aussi sur ce jeu entre les deux modernités, tel que la littérature lue par un historien peut en être, disons, le terrain de fouille.
Alors vous arrêtez sur des détails, et en même temps vous arrêtez aussi sur ce que ça veut dire, quand on écrit une nouvelle comme ça, d'y mettre des détails, ce que vous appelez le détaillisme, ce qui est aussi une manière de faire de l'histoire de la littérature, tout en faisant de l'histoire tout court, Judith Lioncamp.
Oui, c'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est comment la littérature porte la trace d'expériences de mise en écriture du monde qui avaient été celles de la période 1840. Donc, par exemple, il y a l'écriture de la flânerie, qui est une pratique balzacienne et para-balzacienne, on peut dire, très forte dans ces années-là. Il y a le moment du développement de l'écriture de la mode, et donc il y a un écho dans le texte de Barbet, non seulement des modes 1840, mais des écritures de la mode 1840, dont il a d'ailleurs été un praticien jeune homme, puisque comme Mallarmé et tant d'autres, Barbet a écrit pour les journaux de mode. Donc, il y a le texte porte la trace d'une expérience d'écriture, d'un ensemble d'expériences d'écriture, de mise en écriture de l'expérience historique, si on peut dire, du présent de 1840. Et donc, c'est en effet une histoire de ce que c'est que de traverser le monde avec la littérature et le présent de 1840 avec la littérature.
Et traverser en particulier Paris. Voilà. Parce qu'il y a cette archéologie, au sens encore plus littéral, si j'ose dire,
de
Paris, d'un Paris qui est complètement bouleversé entre les deux moments historiques, puisque entre-temps, Haussmann fait son œuvre.
Passé par là, absolument.
Et donc, notamment ce quartier autour de l'Opéra.
Ça a été en fait une des surprises de la lecture du texte. Quand j'ai commencé à le regarder de très près, je me suis rendu compte que le parcours qu'effectuaient les deux personnages était un parcours que je pouvais situer au mètre près sur les plans cadastraux de l'époque de la monarchie de Juillet. Et donc, on pouvait faire apparaître, en documentant, parce que là, il faut une densification historique du texte, ce que je propose, on pouvait faire apparaître dans le texte comme l'empreinte d'une ville qui, en 1874, a complètement disparu du fait que l'histoire se passe dans une zone qui a été effacée par ce qui a été une des premières entreprises de l'haussmannisation, qui est la construction de la place de l'Opéra. Et donc, la rue basse du rempart, où descend le personnage à la suite de cette femme, et le passage dans lequel il s'engouffre, le passage Cendrier, sont des zones qui ont complètement disparu au moment de l'écriture du texte et de sa publication. Mais le texte en porte une empreinte précise, si bien que plus je savais ce qu'il y avait dans ce passage et ce qu'il y avait dans cette rue, plus je comprenais que l'écriture de Barbet était tout à fait, sans le dire, complètement référentielle. Et donc ce qui pouvait apparaître comme des effets d'écriture était aussi, à nouveau, des griffes du temps sur le texte, des traces, des empreintes de la ville disparue. Et il y a, pour moi, dans le texte de Barbet, une sorte de tombeau, au sens poétique et musical, au Paris de Balzac, c'est-à-dire
enseveli,
qui est là, mais qui est conservé et qui vient jusqu'à nous. Alors, peut-être qu'à mon tour, c'était aussi une manière de rendre hommage à cette écriture que de la faire à nouveau traverser le temps pour que l'on perçoive ce livre comme un, où il est beaucoup question de tombeau, ce livre comme un tombeau littéraire.
Ce qui frappe, après la lecture de votre essai, Judith Lioncan, La griffe du temps, c'est à quel point ce texte relativement bref de Barbet d'Aurevilly est d'une densité absolument incroyable, d'une réflexivité frappante par rapport à la littérature, à des questions théoriques. D'ailleurs, il commence comme ça, il commence comme un texte de réflexion sur la littérature, ce qui est assez
curieux. Oui, il y a une sorte de dissertation au début sur la littérature, sur les rapports entre littérature et histoire et sur le fait que la littérature doit s'emparer des crimes de l'extrême civilisation. Je ne sais pas ce qu'en pensera Aurélien Bélanger. Donc, ça commence par une dissertation qui est assez inattendue en début de nouvelle. Et en même temps, c'est aussi intéressant, c'est que c'est un des textes les plus parisiens de Barbet, à part Une vieille maîtresse, mais qui a une partie normande également, puisque Barbet est un auteur qui s'est beaucoup tourné vers une Normandie réinventée, puisqu'il y a un moment, il s'est voulu être le Walter Scott du Cotentin. Voilà. Parce qu'il a fait tout à fait autre chose, en réalité. Mais c'est vrai que, bon, le travail aussi de l'historien sur le texte a pour effet de densifier considérablement la nouvelle qui, cela dit, enfin, on pourrait continuer à essayer de la déployer comme
d'autres
ça.
D'autres historiens y verraient d'autres détails signifiants, peut-être d'autres enquêtes à mener.
Bon, il y a peut-être d'autres enquêtes à mener. Il y a un dernier chapitre que je fais sur l'Espagne et sur la présence de cette Espagne tragique qui, selon moi, transite pour Barbet, qui n'y a jamais mis les pieds, par cet extraordinaire musée qui était la Galerie espagnole du Louvre et qui a disparu après la Révolution de 1848. Mais on aurait pu encore continuer à creuser, notamment dans les rapports avec l'histoire de l'art, puisqu'il y a toutes ces images du 19e siècle, enfin produites au 19e siècle ou regardées au 19e siècle, la peinture du siècle d'or espagnol, la Renaissance italienne, la peinture romantique contemporaine. Il est question d'un Vernet, de Gavarni, donc tout ce monde d'images qui est présent dans la nouvelle.
Alors il y a une chose, finalement, je crois que vous n'avez pas dit depuis le début, c'est aussi la structure de la nouvelle qui peut-être vous a donné l'idée de vous attaquer à ce reste du littéraire. Parce que ça, c'est l'objet de l'avant-propos du livre, du seuil du livre, qui est aussi le fait de s'interroger sur cette construction. Dans cette nouvelle, on est d'abord dans la rue avant de pénétrer dans cet appartement, et au fond, c'est une manière de signifier la frontière entre l'histoire et la littérature, on pourrait dire.
Oui, ça m'a beaucoup frappé, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le texte, de me rendre compte qu'il y avait une structure, en fait, double et en réalité triple dans le texte. Il y a cette première partie qui est comme une sorte de long travelling sur le boulevard. Bon, il la suit. Et là, on est dans le territoire de l'historien, d'une certaine manière, la réalité prostitutionnelle de cette ville, Paris, qui était dans cette zone très densément peuplée de prostituées. Et puis, monter l'escalier, il y a une porte qui est un seuil, puisque le personnage remarque étrangement que la porte est flanquée de deux torchères luxueuses qui, évidemment, n'ont rien à faire à côté d'une carte de prostituée. Et là, on rentre dans le monde du rêve, du fantasme, de la littérature, du plaisir, du mythe. Et à l'intérieur de ce monde s'ouvre encore une troisième fenêtre qui est celui que le récit de la Duchesse ouvre sur l'Espagne immémoriale et tragique dont elle vient. Et cette structure qui parle du rapport de la littérature à son dehors, et qui convie le lecteur à entrer dans quelque chose qui serait justement ce qui échappe à l'histoire, m'a évidemment intriguée. Et donc j'ai voulu, à la suite, comme Barbet y invitait, à franchir le seuil et ensuite y amener mes lecteurs.
Alors nous aussi, on va franchir un seuil pour aller vers la littérature dans la deuxième partie de l'émission, mais c'est après un extrait du nouvel album de Matthew Edwards.
Papa, papa, papa. Ba ba da ba 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 da ba. It's been a bad day for the dreamers. We came a long way for a kiss goodnight. Should enchantment fall?
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Faire de l'histoire avec la littérature, c'est le projet et ce qu'a accompli Judith Lioncan avec La Griffe du Temps, ce livre qui paraît aux éditions Gallimard et dont nous parlons depuis le début de l'émission. Faire de la littérature avec l'histoire, on peut dire que c'est aussi en partie le programme d'Aurélien Bélanger qui nous rejoint pour cette seconde partie d'émission. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de quelques romans, plus récemment encore d'une pièce de théâtre Eurodance, mais avant cette pièce, vous aviez publié Le Grand Paris, ce qui nous ramène à un autre Grand Paris, celui dont on a parlé, celui d'Haussmann, qui était déjà un Grand Paris, parce que ces histoires de rue basse et derrière le petit Paris des murs, des enceintes, qu'il existait. Moi, je sais aussi, Aurélien Bélanger, à quel point Balzac a été un auteur important, déterminant même, je pense, pour vous, pour le passage à l'écriture. Je me souviens que vous m'aviez expliqué ça il y a longtemps déjà.
Il y a une métaphore géniale sur Paris chez Balzac qui est tellement bonne que je ne sais pas si elle est de Balzac, parce que c'est la meilleure métaphore qu'il y a chez Balzac, ce qui est vraiment une étrangeté. Il dit que toutes les portes qui se coordonnent agissent comme la carapace d'un homard. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé une image aussi bonne.
Donc, comment vous... Peut-être faut-il le préciser, vos romans sont... avec un matériau historique extrêmement important, mais d'une histoire, au fond, qui est une histoire relativement récente, à peu près le même type de durée qu'on a constaté entre ces années 1870 où Barbet d'Aurevilly écrit, et puis les années 1830 dont il parle. Vous, quand vous écrivez ce qui s'est passé dans le monde des télécoms dans les années 60 ou 70, quand vous écrivez ce qui se passe autour de l'aménagement de Paris il y a 20 ans, il y a 25 ans, finalement, vous êtes aussi dans ce décalage.
Ben, y a quelque chose, un quartier que je peux pas m'empêcher de traiter dans mes romans qui recouvre bien ça, c'est le quartier du Sentier, parce que on sait qu'il est sur des remblais et donc en fait des débris d'un ancien Paris. On sait qu'il est, il a été constitué de l'amoncellement de matière suite à l'abolition d'une barrière. Donc déjà on a tout Paris qui grandit. Ensuite, quand on le voit, on a vraiment l'impression de voir des photos d'Adjeb, parce que les immeubles sont trop fins, trop étroits. On a vraiment l'impression d'un décor de théâtre, et c'est vraiment minuscule, hein, c'est 4-5 rues qui créent cet effet. Et je savais, parce que j'avais écouté les informations en 2000, que c'est là qu'était né ce qu'on avait appelé le Silicon Sentier. Et du coup, c'était assez bizarre il y avait déjà une historicité. Déjà, le numérique s'était posé, alors pour plein de raisons, mais c'était posé à un endroit vraiment profondément bizarre. Et le truc a essaimé, a récupéré le monde des galeries des années 1850. Il y a eu des startups qui sont nées là, etc. C'est aussi le quartier de la grande presse. Enfin, c'est des choses tout à fait bizarres. Et du coup, c'était intéressant. Enfin, ça crée une temporalité qui est vraiment très, très profondément inscrite dans les lieux. Moi, c'est des micro-détails, mais en ce moment, il y a beaucoup de boutiques qui vendent des cigarettes électroniques. Je n'arrive plus à me souvenir ce qu'elles vendaient avant. J'ai l'impression qu'il y a 80 000 bouteilles de cigarettes électroniques avant. Je ne sais même plus, moi, ce qu'il y avait il y a 5 ans. Je sais plus ce qu'il y avait il y a 15 ans. Donc, dès que je retrouve une vieille photo, je suis émerveillé, mais il y a une sorte de... tout autour, comme ça, des rez-de-chaussée haussmanniens. C'est comme si Paris grossissait comme les cernes d'un arbre. Et il en restait rien, ou alors il reste des choses, et là je me dis, ça peut être ma micro-tâche de romancier, il reste des choses, si je ne les dis pas, on ne saura pas. J'ai toujours cette espèce de rêve que on parlait du reste et de la littérature. Malgré tout, je me dis, si la littérature, ça peut être une définition de littérature, si la littérature existe, il faut bien qu'elle ait un sujet qui soit proprement à elle, et que l'histoire peut retrouver par la littérature, mais elle n'aurait pas pu trouver seule. L'exemple spontané que j'en ai, c'est les cernes du réseau Bebop, donc c'est facile à documenter, mais on voit encore, si on lève les yeux, des gouttières où il y a des autocollants bleu-vert.
Ah, Bebop, c'était un...
Ben, c'est le premier téléphone portable, ça qui a dû se déployer vers 95-96. Voilà, je suis très ému quand j'en vois quelques-uns dans la rue, je me dis, je me suis un peu forcé un jour à en mettre un dans un roman, en disant, si j'en mets dans un roman, peut-être cette chose sera oubliée.
Alors souvent, les écrivains ou les romanciers hésitent à trop griffer leur texte. Ils ont une retenue parce que s'ils se soucient un peu de leur postérité, en tous les cas s'ils se demandent si ce qu'ils écrivent pourra être lu dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être retiennent-ils leurs gestes. Comment vous procédez, vous?
Le problème, c'est qu'on est dans un pays où l'histoire littéraire existe très fortement. Moi, j'ai vraiment appris à lire en lisant les folios extrêmement annotés de La Recherche du Temps Perdu. Donc, il y a un moment, on est tenté de laisser plein d'énigmes, parce qu'on sait qu'un Jean-Yves Tadié ou je ne sais pas qui surgira plus tard pour résoudre toutes les énigmes. D'un autre côté, j'étais aussi marqué par une autre école, l'école, on va dire, un peu minuit, etc., que le livre devait être le plus nu possible, pas du tout de paratexte, même rien écrit au dos, et c'était d'autant plus littéraire qu'il y avait cette étrangeté. Et je me souviens avoir été très brièvement émerveillé par un Jean-Philippe Toussaint un jour que j'avais lu à 18 ans. Je fais, il y a vraiment des pointes de modernité. Je me souviens, il y avait des mots comme polaroïde, des choses qui étaient comme ça inexplicables et qui étaient des phonèmes directement poétiques. Donc faut arbitrer entre les deux. Après, ce qui est amusant, c'est de faire remonter des notes de bas de page dans le texte, par exemple d'expliquer de façon outrancièrement compliquée quelque chose que tout le monde utilise tous les jours. Raconter le fonctionnement d'un smartphone, c'est idiot, mais on a déjà oublié des grandes révolutions des différents iOS, et si je raconte que les chiffres tournaient pas comme ça avant, c'est quelque chose qui a complètement disparu des mémoires. D'autant plus, ça marche très bien pour les interfaces informatiques, qu'elles évoluent de façon subliminale. Et que soudain, quand on nous montre à quoi ressemblait Amazon il y a 10 ans, on fait « Ah, ça ressemblait à ça, je ne l'avais pas vu changer ». Et du coup, ça joue à un jeu un peu baudelairien sur la forme du cœur et la forme des villes, mais il y a plein de choses comme ça dans la modernité qui encryptent ce sentiment du temps.
Ça, c'est une question intéressante pour vous. Je dis donc, finalement, puisque vous considérez aussi la littérature comme une action littéraire, ce moment de l'écriture, donc cette décision que peut prendre l'écrivain de griffer ou pas, dans quelle mesure vous êtes interrogé là-dessus?
Écoutant Aurélien Bélanger, déjà, je voudrais pouvoir faire l'historienne de ces gestes d'écriture qui parlent d'un rapport à la littérature. Je trouve ça très intéressant la manière dont vous mettez tout de suite en relation les choix d'écriture et la manière dont l'institution littéraire construit la place de la littérature entre, disons, ces folios très annotés qui transmettent un savoir et la littérature toute nue, entre guillemets, chez Minuit. Et ça c'est vrai que cette configuration, qui sont des choix d'écriture dans un certain état et un certain regard sur l'institution littéraire, c'est exactement l'histoire du littéraire ou du fait littéraire que je pratique. En même temps, je crois qu'il y a dans la littérature française, dans d'autres d'ailleurs, mais une filiation à laquelle vous appartenez, Aurélien Bélanger, de ce choix de faire du texte littéraire le lieu d'un feuilletage du temps. D'un feuilletage de l'expérience historique et de reprendre. Moi, je suis très frappée à vous lire à quel point, effectivement, la littérature, une certaine littérature du 19e siècle travaille alors même qu'elle n'est pas, elle peut être évoquée, hein, mais vous parlez d'une extrême modernité. Mais ce rapport à la modernité, c'est bien un rapport construit, je crois, par la
C'est quelque chose qui est intéressant, avec l'adjectif poétique qui a été très galvaudé, mais il y a beaucoup de choses qui sont poétiques et qui le sont tellement qu'elles ne le sont plus. Donc on ne peut plus dire que les couchers de soleil sont poétiques. Par contre, je trouve que le terme romanesque est sous-utilisé. Romanesque, pour moi, désigne vraiment un type d'expérience. Ça peut aller de la théorie du complot à des stratifications temporelles très fines. Voilà, il y a des choses que je ressens comme immédiatement romanesques. Et c'est au-delà de la qualité de... Je sais pas, l'affaire Benalla est romanesque. C'est au-delà parfois de la qualité des personnes. C'est parce que la façon dont le récit est organisé avec des histoires dans les histoires par tiroir crée déjà cette chose. Ce qui est bizarre, c'est que quand je dis romanesque, ça veut dire compliqué à tiroir, mais j'aimerais bien que romanesque, ça soit aussi spontané que poétique et qu'il n'y ait pas besoin d'expliquer. Romanesque, c'est une sorte de desserrement de la réalité ou un effet de parallaxe où ça se réoriente différemment et on voit un peu de profil.
Judith Lencor, c'est aussi une manière de souligner qu'il n'y a pas d'un côté le monde et de l'autre la littérature, que la littérature est aussi une manière de faire l'expérience au quotidien du monde dans lequel nous habitons.
Oui, c'est en tout cas dans l'histoire que j'essaie de pratiquer, l'écriture et la lecture de littérature font partie des réalités historiques sur lesquelles je travaille. Voilà, donc on peut dire ça comme ça. Pour le 19e siècle, ou d'ailleurs pour des périodes plus récentes, puisque je travaille aussi pas mal sur l'expérience littéraire dans les camps et les ghettos de l'Europe occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais vraiment le cœur de mon travail est d'essayer de saisir comme historienne ce qu'on fait avec la littérature et ce qu'on a fait avec la littérature, qu'on l'écrive, qu'on la lise, qu'on la partage, qu'on la commente comme nous faisons aujourd'hui.
Aurélien Bélanger, quelle relation vous entretenez, vous, avec les historiens, avec les livres d'historiens dans votre travail, je dirais, d'écrivain?
C'est compliqué parce que c'est des livres qui demandent beaucoup trop de temps. Je trouve que c'est des livres qui sont sensiblement plus gros que les autres et Et donc j'en lis vraiment pas beaucoup, j'en achète beaucoup. Je me suis attaqué à Le Quarto de Kantorowicz récemment, en me disant que j'avais vraiment envie de lire une biographie de Frédéric II. Et puis en fait je l'ai pas lu. Donc je triche un peu, je lis beaucoup d'histoires littéraires parce que ça me permet comme ça de creuser profond et de façon économique. Ouais.
Mais ça veut dire que quand vous, par exemple pour le Grand Paris, vous avez des sources historiennes ou vous avez plutôt tendance à vous servir de Wikipédia?
Non, le problème c'est que le travail, en fait, romanesque ressemble un peu à une plongée dans les archives, et dès qu'on plonge dans les archives, on voit à quel point on n'est pas sérieux, on le fait pas correctement. Donc je vois à peu près à quel point je suis pas historien. Et à quel point, bon, c'est un petit peu injuste, mais à quel point j'ai le droit de pas l'être, en fait, et que je peux tirer des conclusions hâtives, etc. C'est le statut du roman, enfin de la littérature, est ambigu, parce que c'est vraiment, on sait pas si on est au chevauchement des sciences humaines, et puis dans complètement autre chose, et puis c'est pas vraiment ce qu'on nous demande, et puis en même temps, c'est un peu le même travail, et puis j'ai l'impression très souvent d'être un tricheur, mais sans du tout m'en excuser. J'ai réussi à me fâcher récemment, quelqu'un publiait sur Twitter quand on disait que la littérature, on apprenait plus que la sociologie, on faisait l'apologie de la fausse science. Ça m'a fâché parce que, oui, évidemment, je sais que c'est pas bien de faire ça, mais quand je suis vraiment intellectuellement en forme, je me sens bien meilleur sociologue qu'un sociologue. Je sais que j'en suis pas capable dans la durée, mais il y a des moments, disons que je serais pas devenu écrivain si j'avais pas une confiance profonde envers la justesse de mes intuitions. C'est très risqué ce que je dis, mais j'ai parfois l'impression que la littérature, c'est mieux.
Ce qui est extraordinaire, enfin, à vous entendre, c'est que le moment de la naissance du projet sociologique est complètement contemporain du projet de la comédie humaine. Et ce sont des questions qui ne cessent de se reconfigurer. Alors, en fait, à vous entendre, ce qui est très intéressant, c'est à quel point la littérature, maintenant, doit s'excuser. Disons qu'il y a une sorte de, je sais pas comment dire, de
renversement.
De renversement, et puis le d'entendre l'écrivain dire, je suis désolé, je fais pas aussi bien, ou je peux, bon, c'est-à-dire il y a quand même cette espèce de présence un peu en statut du commandeur des sciences humaines qui, par rapport auquel il faudrait dire quelque chose. Alors, c'est vrai que les écrivains du 19e siècle se disaient, eux, comme Balzac, observateurs des mœurs, mais sans avoir besoin de s'excuser.
Merci beaucoup, Judith Lioncan. Je rappelle le titre de votre livre, La griffe du temps, ce que l'histoire peut dire de la littérature. Il paraît aux éditions Gallimard. C'est aussi aux éditions Gallimard qu'on trouve tous les livres d'Aurélien Bélanger. On trouvera, ou presque, on trouvera la bibliographie, les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées sur le site de France Culture, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission et sur laquelle aussi vous pouvez vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Chouchane Djergaillan. À la technique aujourd'hui, Marie Le Peintre. À la réalisation, Philippe Baudouin. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.